pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est livre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre pour ces hors-séries de l'été. Chaque semaine, nous revisitons la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. La semaine dernière, nous étions chez le copain Dumas, Alexandre. Aujourd'hui, nous partons chez sans doute un de ses lecteurs, je pense. En tout cas, un maître de la littérature populaire, le meilleur pour dire les choses, le meilleur de nos jours. Il a publié au moins une soixantaine de romans, une quinzaine de recueils de nouvelles. Il fait peur, il fait réfléchir, il fait rire parfois aussi. Si je vous dis Carrie, ça, Running Man, Misery, on ouvre le chapitre Stephen King aujourd'hui. Pour en parler, j'ai invité Mélanie Fazi, auteure elle-même, traductrice et passionnée de Stephen King. On peut citer au passage Serpentine, son recueil de nouvelles chez Folio SF. Par téléphone, Guy Astic, directeur de la maison d'édition Rouge Profond, chargé de cours à l'université d'Aix-Marseille. On peut notamment y trouver Images et mots de l'horreur chez Rouge Profond, signé Guy Astic, qui est donc spécialiste lui aussi de Stephen King. Et puis tout à l'heure, nous passerons un petit coup de fil à Delphine de Vigan, grande lectrice de Stephen King. Bonjour Mélanie Fazi.
Bonjour.
Et bonjour Guy Astic.
Bonjour Nicolas Carreau.
C'est sans doute l'un des auteurs les plus connus au monde, Stephen King. Il a vendu pratiquement 400 millions d'exemplaires, à 10 millions près, avec ces chiffres-là. Mais il a pourtant quelque chose de mystérieux. On ne peut pas dire qu'il se cache non plus. Il est très présent sur Twitter, par exemple. Mais il ne fait pas tellement d'apparitions médiatiques. J'ai cette impression de mystère, à votre avis, Mélanie Fazi, à cause de la teneur de ses livres, côté mystérieux de ses livres aussi, où effectivement il cultive une forme de discrétion.
Je ne suis pas sûre qu'il cultive une forme de discrétion. Il parle beaucoup, effectivement très présent sur les réseaux sociaux. Il se met beaucoup en avant sa famille notamment. J'ai plutôt l'impression qu'il n'est pas forcément très intéressé par le cirque médiatique. Et je pense qu'il n'en a peut-être pas besoin à son niveau.
Il était venu en 2013 pour une conférence de presse. Il revient très très rarement en France. J'en parlerai tout à l'heure, mais quand il est là en revanche. Hein. Il participe au cirque médiatique, comme vous dites.
Oui,
il fait un numéro, mais superbe.
Il a un vrai charisme en plus.
Alors on reprend par le début. D'où vient-il Stephen King? Quelle est son enfance, ce Guy Astic?
Il vient notamment d'une région américaine qui s'appelle le Maine. Mmh. Et ça, c'est fondamental pour comprendre Stephen King, parce que c'est une région essentiellement rurale d'une certaine façon. Et il a grandi de manière assez isolée, très jeune, très tôt, avec sa mère, qui a fait des pieds et des mains pour joindre les bouts. Mmh. Et il était véritablement dans un environnement précaire. Donc c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, avec cette idée qu'il rentrait seul, tard, sur les chemins, le soir, etc., de vivre à une sorte d'autonomie et autres, un peu à la Mark Twain, vous voyez, c'est ces enfants des États-Unis livrés à eux-mêmes. Voilà, exactement. Tom Sawyer et Calderon Fine, tout ça. Et il a toujours dit, que ce soit dans Anatomie de l'horreur ou écriture, etc., que c'était une enfance qui l'avait énormément marqué, avec l'absence du père. Il imaginait, il fabulait comme ça sur ce qu'aurait pu faire son père, sa mère qui travaillait d'arrache-pied, et lui qui était un peu livré à lui-même. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un enfant qui a affronté un monde trop grand pour lui et qui l'a habité très tôt de monstres et compagnie. Mmh.
Qu'est-ce qui lui met le pied à l'étrier? Quand est-ce qu'il commence à écrire, même en amateur, je veux dire?
Pour ce que j'en ai lu, il y a plusieurs choses. C'est quelqu'un donc qui était très solitaire, donc il découvre, parce que sa mère lui lisait énormément d'histoires, et il s'est plongé très vite dans les livres. Et il y a cette fameuse anecdote qu'il rapporte lui-même, qui est liée à la découverte comme ça d'un carton qu'aurait laissé son père dans le garage de ses oncles et tantes. Et dedans, il aurait trouvé des livres en lien avec la science-fiction, etc. Et il s'est plongé comme un mort de faim, et pour retrouver aussi un peu son père, et en même temps il a découvert tout un univers. Et très très jeune, c'est quelqu'un qui a plongé dans l'écriture, parce qu'à l'école il faisait des histoires qu'il renéotypait, qu'il imprimait et qu'il vendait pour quelques pennies, je sais pas la monnaie, mais qu'il vendait pour quelques pennies à ses camarades de classe. Et une autre chose qu'il montre très bien dans Anatomie de l'horreur, qui est passionnante, c'est que il allait au cinéma, il regardait des films, et ensuite chez lui il remontait commencé ces films-là. Et donc, il a raconté, par exemple, qu'il avait vu des adaptations d'Edgar Poe, et lui-même romancé les adaptations d'Edgar Poe, etc. Donc,
il réadaptait le film adapté, quoi.
Exactement.
Et ça, il raconte ça dans Écriture, d'ailleurs, je crois, son livre autobiographique, et qui parle aussi de sa manière d'écrire. Et ça, c'est un livre assez fascinant et qu'on conseille à tous les apprentis écrivains, d'ailleurs. Alors, le succès va arriver d'un seul coup, on va y venir, mais il était venu en France en 2013, c'est très rare, je l'ai dit, qu'il vienne chez nous. Il n'est pas revenu depuis, par exemple, depuis 2013. Mais à cette occasion, il avait raconté l'histoire de son premier succès, le moment où tout a commencé. Il avait donc écrit Carrie, l'histoire d'une lycéenne dotée de pouvoirs télékinésiques, donc qui peut déplacer des choses à distance et qui se venge de toutes les vexations subies à l'école. C'est un roman génial qui a été aussi adapté en film par Brian De Palma, il me semble. Et puis finalement, il se dit que ça vaut pas le coup, c'est nul. Alors il jette son manuscrit, mais sa femme le sort de la poubelle, l'engueule un peu et lui fait envoyer le texte. Résultat, son agent l'appelle quelques semaines plus tard pour lui annoncer que les droits ont été achetés pour plusieurs centaines de milliers de dollars. La suite, c'est Stephen King qui raconte, c'est juste après le coup de téléphone de son agent.
Et j'étais totalement sonné. Vous savez, c'est comme gagner à la loterie, sauf que quand vous gagnez à la loterie, vous n'avez pas vraiment fait quelque chose à part acheter un ticket. Et moi, j'avais au moins écrit ce livre, donc j'avais fait le job. Et je me suis dit, il faut que j'achète un cadeau à ma femme, parce que c'est elle qui a sauvé le livre. Mais c'était dimanche, dans ma petite ville. Rien n'était ouvert, il y avait juste le drugstore. Alors je lui ai acheté un sèche-cheveux.
Vous y étiez ce jour-là, Mélanie Fazi ?
Oui, j'étais très, drôle, hein. Très impressionnée de le voir, oui.
Et oui, parce qu'il faisait vraiment un numéro, quoi. Il faisait son show, il racontait des choses comme ça.
Il est très drôle, il a un côté très comédien en plus. Il y a une vraie proximité avec le public, quand il s'adresse, un côté très simple. Et en même temps, il a vraiment quelque chose d'un comédien, il est très drôle à écouter parler.
Guy Astic, quand je vous ai dit que j'allais évoquer cette anecdote, vous m'avez dit « Ah, j'ai d'autres billes sur Carrie ».
Oui, parce qu'on ressort toujours l'anecdote, mais justifiée évidemment, liée à Tabitha King, sa femme. Mais ce que j'avais lu aussi, c'est que Stephen King essaye de joindre les bouts pour du côté boulot. Il travaillait dans une laverie, etc. Et puis il faisait le ménage aussi dans un établissement scolaire. Et à un moment donné, il a fait le ménage dans le vestiaire des filles, tout ça, avec un plus vieux que lui. Et il est tombé en arrêt sur une espèce de boîte au mur, etc. Et il a fini par demander à ce vieil homme qui travaillait avant lui ce que c'était. Et ce vieil homme lui a fait comprendre que c'était des choses pour les filles, des protections hygiéniques, etc. Et ça a notamment déclenché l'écriture de King, parce qu'il se considérait comme quelqu'un qui était dans un univers qu'il ne comprenait pas, et il s'est dit, je vais me mettre à écrire aussi pour essayer d'approcher cette chose qui est autre. Je crois que ça, c'est un des grands phénomènes chez King, c'est toujours écrire sur l'altérité, sur l'autre. Et là, c'était évidemment le mystère féminin, et ça a déclenché en grande partie l'écriture de la nouvelle, parce qu'au départ, c'était un texte très court, et il a envoyé, et en fait, c'est l'éditeur qui lui avait demandé d'allonger cette grosse nouvelle, et il l'a allongé. Voilà, pour en faire un roman.
Il parle d'argent dans cet extrait, Mélanie Fazi, et il en parle de manière très décomplexée. L'argent, ça compte pour Stephen King. J'ai lu plusieurs textes où il parle de l'argent et de ce qu'il gagne quand il fait une nouvelle, et surtout à l'époque quand il n'était pas richissime comme aujourd'hui. Il calculait les rendements de ses nouvelles, quoi. Il ne bossait pas pour rien, quoi.
En fait, oui, c'est-à-dire à ses débuts. À ses débuts, c'est quelqu'un qui vient vraiment d'un milieu ouvrier et qui a commencé sa vie dans la pauvreté. Je crois qu'ils ont vécu dans une caravane ou vraiment... Dans des conditions de dénuement avec son épouse. Et à l'époque, il écrivait des nouvelles principalement, parce que c'est ce qui rapportait le plus. Par contre, en lisant le rapport qu'ont notamment ces personnages d'écrivains à l'argent, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose, une fois qu'ils ont obtenu un certain confort dans la vie, il n'a pas l'air d'être du genre à chercher absolument à s'enrichir. Ouais. Quelque part, il s'est sorti de la pauvreté, on a l'impression que ça lui suffit.
Oui, après 400 millions de livres vendus, ça va.
Mais j'ai vraiment cette impression, quand il écrit sur ces personnages d'écrivains, ils ne sont vraiment pas en recherche de richesse. Ça ne les intéresse pas au-delà de s'acheter, par exemple, une deuxième maison et voilà, ça s'arrête là.
Bon, alors, le succès arrive avec Carrie. La carrière de King commence vraiment et elle ne s'arrêtera plus. On en parle dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Les cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc. Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable. Oui, monsieur. Je suis un véritable catalogue par correspondance. Alors, quand Andy Dufresne est venu me voir en 1949 et m'a demandé de faire venir Rita Hayworth en prison, je lui ai dit « pas de problème ».
De retour dans La Voix est libre, spécial Stephen King aujourd'hui. C'était un extrait du film Les Évadés avec Morgan Freeman et Tim Robbins, adapté d'une grande nouvelle de King. Le titre d'ailleurs n'a rien à voir, c'est Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Shawshank, c'est le nom de la prison, et Rita Hayworth, c'est l'actrice, parce que Andy Dufresne, qui est le personnage principal, a un poster d'elle dans sa cellule. Je vous le dis au passage, c'est mon histoire préférée de Stephen King. C'est l'histoire d'un banquier accusé du meurtre de sa femme et son amant et qui se retrouve en prison. Il va essayer de s'évader, bien entendu, mais de quelle manière, c'est à lire et à voir. On est au début des années 80, là. Mélanie Fazi, vous êtes toujours avec nous, spécialiste de King. Guy Astic, spécialiste aussi de Stephen King, est au téléphone avec nous. On est au début des années 80, disais-je. C'est la première grande vague de succès pour Stephen King. Là, il devient vraiment incontournable.
Oui, c'est le moment où il écrit la plupart de ses romans qui restent les plus connus. Après Carrie, il enchaîne sur Salem. Ensuite, il va y avoir Shining. Il va y avoir tous les romans pour lesquels il est connu maintenant et qui sortent tous avec une régularité assez impressionnante.
Justement, on parlait à l'instant des évadés. Ça n'a rien à voir avec Christine, la voiture mangeuse d'hommes, ou ça, ou Shining. Pourquoi est-ce qu'on associe sans arrêt Stephen King à l'horreur ou au fantastique alors qu'il n'y a pas que ça du tout chez Stephen King?
C'est vrai que ses premiers textes ont été vraiment très très marqués fantastiques, et à l'époque où moi je l'ai découvert dans les années 90, il était vraiment considéré comme un auteur de romans de gare. On ne s'est pas tellement rendu compte qu'il avait une palette beaucoup plus large. Et c'est à partir de, justement, de Recueils différentes saisons, je crois, qu'il commence à écrire des textes qui sont plus réalistes. Et en fait, cet aspect réaliste était déjà très, très ancré. Enfin, dans ses textes même fantastiques, il y avait un aspect social, un aspect psychologique très très poussé. Et je pense que l'horreur, pendant un moment, a caché ça. Les gens ont voulu le cataloguer absolument. Et on a mis très très longtemps à le considérer comme un écrivain tout court, en fait.
Le recueil Différentes saisons dont vous parlez, c'est celui qui abrite notamment Les Évadés.
Voilà.
Mais il y a aussi Un élève doué. Alors ça...
Qui est monstrueux.
Chers auditeurs, il faut vous procurer Différentes saisons. Un élève doué, c'est l'histoire d'un gamin de 12-13 ans qui découvre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. On est en Amérique et un jour, en prenant le bus, il reconnaît un type et il est persuadé que c'est un ancien nazi qui se cache sous une fausse identité. Il va le voir et le type dément, évidemment. Et le gamin lui dit « Non, mais je ne vous dénoncerai pas. De toute façon, je veux juste que vous me racontiez comment c'était les camps de concentration. » Et là, on plonge dans une sorte de cauchemar terrible. Il n'y va pas de main morte aussi. C'est ça ce qu'on aime chez Stephen
King. Ça, c'est vraiment un texte d'horreur, mais d'horreur réaliste pour le coup.
Voilà, c'est ça. Guy Astic, vous partagez c'est ce que disait Mélanie Fazi là, sur le fait qu'on a catégorisé King dans une case, alors qu'en fait, il appartient à plusieurs genres.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'en fait, pour comprendre Stephen King, c'est un grand écrivain de la peur. Or, la peur, elle n'a pas de case générique. C'est-à-dire qu'il peut parler de la peur liée aux monstres, aux vampires, etc. Mais il va aussi parler de la peur qui peut être liée à la peur sociale, à la peur conjugale, à la peur familiale, les enfants battus, etc. Et c'est un grand radiographe. Des peurs de l'histoire états-unienne. Et donc Stand By Me, par exemple, qui a adapté de The Body, c'est un immense livre sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte en lien avec un corps qu'on va découvrir. Et il y a son grand roman qui réécrit l'histoire américaine, 22-11-63. Enfin, c'est quelqu'un qui est immense parce qu'il prend tous les spectres, tous les genres, et qui vont du naturalisme américain à la science-fiction, à la fantasy. Et je pense qu'on a du mal à le classer. Et Mélanie avait raison, à un moment donné, on l'a classé comme auteur de littérature de gare, etc. Parce que d'une certaine façon, on ne savait plus trop comment faire. Mmh. Et moi, je pense qu'il y a eu une bascule, un moment très important qui était lié à Bazar. Où en 91, je crois, il va tourner le dos à la ville qu'il avait inventée, qui est Castle Rock. Il va complètement la détruire. Et là, il va se libérer une deuxième fois et il va partir dans des grands romans, dans sa trilogie des femmes battues, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui est inépuisable. Même dans ses derniers romans, Outsider, qui est un immense roman, il me semble, très, très, très noir. Qui là est une sorte de comment dire de mélange de tout ce qu'il fait.
Ça part très réaliste et ça plonge dans une forme de fantastique.
Et en plus en écorniant au passage l'Amérique de Trump.
Mélanie Fazi,
oui,
je voulais dire,
je suis d'accord avec tout ce que disait Guy sur beaucoup de choses. Sur la peur, il y a une chose que je voulais ajouter, c'est qu'il a tendance à jouer. Il y a une sincérité extrême dans son écriture et il va beaucoup puiser dans des éléments autobiographiques. Et par exemple, Shining, c'est pas simplement l'histoire d'un hôtel hanté. On sent, en fait, il écrit sur un petit garçon qui a l'âge. Il dédie le roman à son fils Joe, qui a le même âge que le petit Danny. Et on sent qu'il y a une terreur absolue de devenir père. Et la peur, comment est-ce qu'on fait quand on a ses propres démons pour ne pas détruire ses enfants? Et là, on sent que vraiment, il s'est projeté à fond dans ce roman.
Guy Astic, il brouille encore plus les pistes, Stephen King. Il prend même un pseudonyme à un moment, Richard Bachman. Il a écrit sous ce nom-là, notamment Rage, qui est l'histoire d'un gamin qui prend sa classe en otage, qui a été retiré de la vente d'ailleurs, après qu'on a retrouvé des exemplaires de ce roman chez des vrais lycéens qui avaient pris en otage leur école ou qui avaient été coupables de tuerie dans leur lycée aux États-Unis. Il a écrit aussi Marche ou crève, qui est une sorte de roman génial où c'est l'histoire d'un grand jeu télé où une centaine de gamins de 16 ans marchent jusqu'à épuisement. Il a écrit Running Man aussi, qui a été adapté avec Arnold Schwarzenegger sous ce nom-là. Pourquoi il avait ce pseudonyme Richard Bachman? Est-ce que ça correspond à un genre différent? Pourquoi il avait pris un autre nom?
Alors, il y a deux choses. Il l'avait dit parce qu'il en avait marre d'apparaître comme ça dans les box-office, enfin, les best-sellers, le classement des best-sellers. Et à un moment donné, on disait « oui, mais il est premier parce qu'il s'appelle Stephen King ». Et il s'est donné comme défi, alors c'est ce qui est raconté, je ne sais pas s'il a part jusqu'où c'est vrai, mais il s'est donné comme défi de d'écrire sous le nom de Bachman, et je ne sais plus pour quel roman, mais... dans ce classement est apparu premier Stephen King, deuxième Richard Bachman. Et aussi, quand on lit bien, à un moment donné, je me suis amusé à lire d'affilée les Richard Bachman. Ce qui est assez fascinant, et Mélanie Fazi, qui est autrice, le dira peut-être mieux que moi, mais on sent qu'il s'est libéré et qu'il a un autre rythme dans le phrasé. C'est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus heurté. Et il s'amuse comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi pour sortir ces démons un peu personnels. Je trouve que La part des ténèbres est un très grand roman là-dessus. L'idée de l'écrivain et son double, sa part sombre. Et King a peut-être voulu comme ça projeter sur un alter ego qu'il va s'amuser à tuer, à enterrer. Donc il y a un jeu littéraire aussi.
Mélanie Fazi, sous le nom de Bachman ou le nom de King, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un graphomane fou. Je veux dire, depuis tout à l'heure, on fait un peu de name-dropping, excusez-nous, mais on cite des romans dans tous les sens parce que effectivement, c'est une source inépuisable. King, on ne les compte même pas, ces textes qu'il a écrits, tellement il y en a. Qu'est-ce qu'il cherche dans cette boulimie d'écriture?
Il en écrit quasiment un par an, j'ai l'impression. En fait, il fait vraiment partie de quelqu'un et c'est frappant. Je pense qu'on apprend beaucoup sur lui comme écrivain en lisant sur ses personnages d'écrivain. Il y a vraiment des schémas qui reviennent. Ils sont tous des personnages qui ont, comme lui, je pense, un rapport à l'écriture qui est absolument vital. C'est-à-dire, c'est leur vie. Toute leur vie est là. Et souvent, ça les a sauvés de quelque chose, soit de la folie, de leur passé, où il y a toujours l'écriture qui sauve, finalement. Et on sent qu'il y a une espèce de question qui hante ces romans. C'est, et si un jour l'écriture disparaît, qu'est-ce que je suis si je n'écris plus?
On sent qu'il ne peut pas
ne pas écrire.
Avec Delphine de Vigan. Et puis, particularité aussi de Stephen King, la plupart de ses romans ont été adaptés à l'écran. Et ça, on y revient tout de suite.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Jacques est instituteur.
Non, un ancien instituteur.
Eh bien ici, ça va drôlement vous changer.
5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande.
Cet endroit est un si énorme labyrinthe qu'il me faudra tracer une piste de miettes de pain chaque fois que j'y entrerai.
T'as vraiment envie d'aller vivre dans cet hôtel tout l'hiver?
La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement.
La Voix est libre, spécial Stephen King aujourd'hui avec un extrait de Shining, c'était la bande-annonce de Stanley Kubrick, une adaptation d'un roman de Stephen King du même nom. King qui a d'ailleurs détesté ce film, Mélanie Fazi, il le dit très volontiers d'ailleurs.
Oui, il le dit, il le répète assez souvent, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, c'est que Kubrick effectivement a gardé la trame, il a gardé le squelette finalement et quelques images, et il en a fait à 100% du Kubrick, et c'est vrai qu'on ne reconnaît pas tellement le roman dedans. Et King a tendance à dire que Kubrick a fait un film qui est extrêmement glacial et intellectuel, là où il y avait beaucoup plus de chaleur dans Shining, parce que c'est un avis que je partage assez. Il y a vraiment toute une dimension psychologique que Kubrick n'a pas choisi de développer.
Comment on explique que la quasi-totalité des livres de Stephen King sont adaptés au cinéma ou à la télévision? Est-ce qu'il y a une explication d'ailleurs? Est-ce que c'est dans le mécanisme d'écriture de King? Comment ça se fait?
Il y a l'idée que King a de fortes images. Je pense qu'il y a de fortes configurations imaginaires comme ça qui vont tout de suite marquer le cinéma, la télévision aussi pour les séries. C'est quelqu'un qui va reprendre les monstres. Mais c'est aussi, il le dit lui-même, il écrit toujours, je l'avais lu quelque part, je ne sais plus où, mais de sa part, j'écris pour le troisième œil du lecteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est du côté d'une écriture extrêmement visuelle, extrêmement sensorielle, et le cinéma peut s'en emparer, aussi bien du côté des films qui sont impressionnants, qui peuvent faire peur, qui peuvent aller jusqu'au gore, que du côté des films qui sont subtils dans les sentiments, etc., comme La Ligne Verte, comme Les Évadés.
Oh là là, La Ligne Verte. Oh là là.
Voilà. C'est donc il y a. Ben oui. Et je trouve que pour moi, ça m'a toujours étonné, par exemple, qu'un Steven Spielberg n'ait jamais croisé la route de Stephen King. Parce que pour moi, Steven Spielberg, c'est le Stephen King du cinéma. Ils sont absolument de la même génération. Il est comme King, quelqu'un qu'on a à un moment donné voulu classer dans le cinéma, de l'entertainment, etc. Et qui fait tous les genres. Je trouve que. Qu'il y a vraiment une proximité de ces univers-là et ce sont de grands, grands raconteurs, tous les deux, allant de quelque chose qui va du divertissement à quelque chose qui peut aller dans des dimensions extrêmement sérieuses.
Oui, très profondes. Je vous pose une question impossible, Guy Astic. Quelle est la meilleure adaptation de Stephen King à l'écran?
Oui, elle est impossible parce qu'il y en a plusieurs. La vôtre. Oui, alors j'ai revu récemment, mais c'est parce que c'est très récent, en une copie Blu-ray extrêmement belle, Cujo de Lewis Teague, avec ce Saint-Bernard qui est mordu par une chauve-souris qui devient un chien enragé. Et voilà, une situation très simple qui donne un roman magnifique en plus sur le délitement d'une famille et avec cette séquence où la mère et son enfant sont bloqués au milieu d'une cour et attaqués par un Saint-Bernard. Voilà.
C'est vrai que c'est ça, Mélanie Fazi, Stephen King, souvent c'est le what if. Et si il se passait ci, et si il se passait ça, et ça part de là, et ensuite ça donne un roman, y compris des romans fleuves, à partir d'une simple idée.
Mais il a souvent des concepts de départ qui sont très simples, et ce qui est intéressant, c'est que c'est très simple et ça donne des résultats jamais simplistes. Il pousse vraiment les thèmes très très loin. Et je pense que c'est peut-être ça qui a attiré des réalisateurs aussi au départ, c'est qu'on peut résumer certaines de ces histoires à un concept de départ, à partir duquel il y a une vraie richesse qu'on peut développer.
Et sur l'adaptation au cinéma et sur le fait que King est sans arrêt adapté au cinéma, vous partagez le point de vue de Guy Astic là-dessus?
Je pense qu'effectivement, il y a cette notion de concept. Il y a le fait que, comme le disait Guy, c'est quelqu'un qui crée des images extrêmement fortes. Et je pense par exemple dans Carrie, cette image de Carrie couverte de sang qui a été reprise telle qu'elle dès la première adaptation. Et quelqu'un qui crée des personnages extrêmement marquants aussi. Après, ce que je trouve intéressant et frappant, c'est que les premiers réalisateurs qui l'adaptent font des choses très très différentes de ses romans. C'est assez tardivement qu'on a commencé à vraiment les adapter de manière fidèle, je trouve.
On l'a dit, King a vendu 400 millions de livres à peu près. Est-ce qu'il restera dans l'histoire de la littérature? Vous allez me dire, on verra bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, par exemple, il n'y a pas tellement d'exégèse de Stephen King. C'est compliqué de trouver une biographie bien faite. On n'est pas dans la... Je veux dire, il a souvent été... déconsidéré et victime de critiques un peu faciles, alors beaucoup moins maintenant, mais est-ce qu'il reste un peu de ça? Est-ce qu'il reste un peu de ce, pas de mépris quand même pas, mais enfin de déconsidération de cet écrivain-là?
On est un peu dans un entre-deux, c'est qu'il commence timidement à y avoir des choses, et au moment de sa venue en France, je me suis rendu compte que les médias traitaient sous les deux angles, c'est-à-dire il y avait le maître de l'horreur d'un côté, et certains qui commençaient à le traiter vraiment comme un écrivain, un grand écrivain tout court. Et pour répondre à la question, oui, je pense absolument que c'est quelqu'un qui va rester, c'est... déjà parce qu'il a eu un impact en termes de succès, en termes d'adaptation, en termes simplement de, j'ai presque envie de dire, d'occupation du paysage littéraire, mais parce qu'il a eu un impact extrêmement fort sur les lecteurs. C'est pas des romans qui s'oublient quand on les a lus.
Guy Astic, là-dessus, sur les critiques, il en parle beaucoup, Stephen King, enfin, il en parle de temps en temps, y compris dans ses romans, sur des critiques qui l'ont touché, en fait, sur son statut qui ne lui convenait pas, finalement.
Oui, c'est vrai, il avait souvent l'image de... Il est le hamburger qu'on va consommer, mais il n'est pas du côté des fines bouches, etc. Moi, je me souviens, et d'ailleurs, Ilan Ifazi était venu, j'avais co-organisé le colloque à Cerisy sur Stephen King en France, et moi-même, j'ai enseigné sur King à l'université, aussi bien en littérature qu'en cinéma. J'ai essuyé des colibés de certaines personnes et d'autres qui m'ont dit « Enfin, quelqu'un qui en parle !» Mais parce que je pense que le problème, c'est qu'on confond... l'univers populaire qu'on veut simplifier en disant oui, voilà, et le fait que lui-même s'empare de tout cela et en fait une œuvre absolument cohérente, intense, puissante, qui pour moi, j'ai pas peur de le dire, peut être à par moments à la hauteur d'un Victor Hugo chez nous en France. Ou d'un Alexandre Dumas, etc. Or, il y a des études sur Alexandre Dumas, mais aux États-Unis, il est extrêmement étudié, hein, Stephen King, dans les universités. Il y a énormément de colloques, énormément de collectifs universitaires. Je pense qu'on va peu à peu prendre le temps de revenir sur lui et de voir qu'il est un auteur majeur qui, en plus, a énormément influencé.
Aux États-Unis, il a réussi à acquérir ce statut-là.
Oui, moi j'ai beaucoup de livres qui sont des colloques, des collectifs états-uniens sur lui dans beaucoup d'universités.
Mélanie Fazi, à votre avis, comment on aborde Stephen King ? Là, je parle aux auditeurs adolescents éventuellement qui nous écoutent ou à leurs parents pour faire lire Stephen King. Par quoi, à votre avis, on commence ? Par quel type de Stephen King ? Si vous avez deux, trois idées comme ça à conseiller, est-ce qu'il faut plutôt commencer par les nouvelles, par les romans un peu fleuves, enfin en tout cas très longs, comme je sais pas, La Ligne Verte ou La Tour Sombre ? Vous avez commencé par où et à votre avis, quel est le mieux ? Quel est le meilleur chemin ?
Je ne sais pas s'il y a un meilleur chemin, parce qu'en discutant avec des lecteurs, on s'aperçoit que chacun a eu son propre chemin et finalement chacun a sa propre histoire avec King.
Et chacun a son King
moi,
préféré. Ouais.
Moi, je suis tombée dedans, entre guillemets, par les nouvelles qui, curieusement, ne sont pas forcément ce qui m'a le plus marqué chez lui. C'est le recueil Brume. Et je pense que le roman qui m'a absolument terrassée quand j'étais adolescente, c'était ça.
Alors Brume, faut dire un mot. Oui. Brume, c'est donc il y a un grand brouillard qui s'installe. Voilà. On est dans le Maine, je crois encore. Hein,
ça doit encore être dans le Maine.
Et il y a un brouillard, après une grosse tempête. Et puis tout d'un coup, il y a des tentacules qui apparaissent à droite à gauche sans qu'on les voit arriver.
Et c'est beaucoup.
C'est très très angoissant.
C'est très angoissant et c'est vraiment ancré sur le huis clos de ces personnages qui sont enfermés dans un supermarché et qui cherchent à survivre. Je ne sais plus s'ils s'entretuent les uns les autres, mais il y a des tensions aussi entre les personnages.
Bah, en tout cas, comme d'habitude, il se sert du fantastique pour parler d'autres choses, voilà. Et en l'occurrence, les relations sociales ici. Et la lâcheté éventuellement des humains avec leurs prochains. Guy Astic, même question pour vous. Par quoi on commence ?
J'en profite pour dire en plus que Brume, c'est une des meilleures adaptations au cinéma par Frank Darabont, qui a fait aussi Les Évadés, qui est The Mist. Moi, oui, je suis comme Mélanie, c'est cette épouvantologie qui est ça, qui m'avait complètement embarqué à l'époque, je me souviens. Si j'avais des enfants, je leur dirais de lire ou l'année du Loup-garou, qui est très intéressant avec des petites histoires, ou alors Les Yeux du Dragon, qui est un immense conte, et qui est magnifique, qu'il avait fait paraître au milieu des années 80. Mais ensuite, on a tellement de textes différents qui vont du fantastique le plus poussé jusqu'à la chronique sociale que, suivant les personnes qu'on rencontre, on peut leur proposer à qui que ce soit un King et ça marchera, je pense.
Alors, vous avez dit Les Yeux du Dragon. Les yeux, justement, de Mélanie Fazi se sont éclairés.
Pas sur Les Yeux du Dragon, qui est un jeu que je n'ai pas lu. C'était plus... Je suis en train de repenser à tous ceux qui m'ont marqué, effectivement, que je conseillerais parce qu'on ne s'arrête plus. Moi, un livre que je conseille très souvent parce qu'il m'a énormément marqué, mais en le relisant adulte, c'est Misery, qui pour moi est peut-être son chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman à suspense très très fort sur un écrivain qui se retrouve entre les griffes d'une fan qui est complètement folle et qui le pousse à se remettre à écrire. Et pour moi, c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu sur l'acte d'écriture. Il y a quelque chose de magnifique là. Et si je peux juste en ajouter un dernier, peut-être. Il y a un livre que j'ai souvent conseillé à des gens qui sont un petit peu réfractaires à l'horreur et qui se disent « Bon, King, ça va être un peu violent, un peu effrayant ». Et je leur ai mis entre les mains Dolores Claiborne, qui est un livre absolument pas fantastique. Mmh. Et ils ont été vraiment bouleversés par ce livre. C'est un livre qui peut être une porte d'entrée si on ne veut pas affronter, je dirais, l'horreur frontalement.
Dolores Claiborne, vous nous rappelez l'histoire ?
Dolores Claiborne, c'est un monologue entièrement écrit à la première personne par une femme qu'on suppose un peu inspirée par sa mère, qui a vécu toute sa vie en faisant des ménages et qui est vraiment usée par la vie, et qui est accusée par la police d'avoir tué son employeuse. Et c'est entièrement le monologue, en fait, quand elle est face à la police. Et elle les envoie bouler en disant « Mais vous racontez n'importe quoi, elle est juste tombée dans l'escalier. Mais maintenant qu'on y est, je vais vous expliquer pourquoi, il y a des années, j'ai tué mon mari. »
Et merci d'avoir parlé de Misery à l'instant. Ça me fait une transition parfaite parce que nous allons recevoir dans un instant Delphine de Vigan, qui est une grande lectrice de Stephen King. On va parler de Misery. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, émission spéciale Stephen King aujourd'hui. Il est l'heure, comme chaque semaine, de passer un coup de fil à une personnalité, pas forcément spécialiste, mais qui aime, qui admire ou qui est inspirée par l'auteur du jour. Et pour Stephen King, j'ai demandé à Delphine de Vigan, j'y ai pensé à cause, ou grâce d'ailleurs, à D'après une histoire vraie, publiée chez Lattès en 2015, son roman, l'histoire d'une lectrice qui s'insinue dans la vie et dans le processus d'écriture d'une écrivaine. C'était un hommage direct à Misery, le chef-d'œuvre de Stephen King. L'histoire, cette fois, je rappelle, d'une lectrice qui séquestre un écrivain et qui le force à écrire un roman. Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour.
Quand et comment avez-vous rencontré Stephen King, littérairement, je veux dire?
Je l'ai rencontré en plusieurs étapes. Je l'ai lu adolescente, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs. Je pense que c'était Carrie que j'ai dû lire en premier, qui a déjà été vraiment pour moi un premier choc. Shining, enfin tous ces premiers romans de cette époque. Ensuite, j'ai complètement oublié Stephen King d'une certaine manière et j'y suis revenue plus tard en m'intéressant justement à la figure de l'écrivain que King mettait en scène dans plusieurs de ses romans. J'y ai pensé en fait parce que j'avais vu le film Misery. Alors j'ai lu le roman à travers ce prisme et en effet, voilà, c'est vraiment un texte absolument fantastique sur l'acte d'écrire, comme le disait votre invité, sur la création. Du coup, j'ai continué à lire ce Stephen King-là et à découvrir finalement beaucoup de facettes, parce que comme le disaient vos invités, c'est bien sûr un auteur extrêmement prolifique, mais qui a une œuvre vraiment très très complexe et avec des facettes très très différentes. On parlait tout à l'instant de Dolores Claiborne. Moi, c'est un roman que j'ai vraiment adoré, qui au fond est un livre sur l'inceste aussi et sur la découverte de l'inceste par une mère. Il y a vraiment des thèmes comme ça qui traversent son œuvre, qui finalement n'ont pas tous à voir avec le gore, comme on peut s'y attendre, mais avec d'autres formes d'horreur.
Mais la lecture de Misery, ça vous a bousculé, bouleversé ou intéressé intellectuellement? Je veux dire, comment vous en êtes arrivé à aller jusqu'à en faire un roman, quoi?
Alors, je ne peux pas dire que j'en ai fait un roman parce que le D'après une histoire vraie diffère en plein de points. Ce n'est pas du tout un remake de Misery. Mais c'est vrai que j'ai mis en exergue à plusieurs reprises dans le livre. Il y a le D'après une histoire vraie.
Ce n'est pas ça ce qui a été déclencheur du roman?
Non, du tout.
Ah,
non, du tout. Mais en écrivant le livre que j'avais envie d'écrire, j'ai repensé à Misery. Je me suis dit au fond que je pouvais rendre hommage aussi à Stephen King à travers ce livre. Et donc j'ai placé en exergue des trois parties du roman des citations de King qui ont trait à ce rapport parfois un peu ténu entre le réel et la fiction. Pour moi, Misery, c'est vraiment un hommage absolument fantastique à la fiction, parce qu'au fond, cette femme qui séquestre cet écrivain qui est très mal en point, parce que en plus assez vite, sans trop en dire, elle lui brise la jambe, donc elle est vraiment absolument terrifiante. Elle est furieuse contre lui parce qu'il a fait mourir son personnage. En fait, il écrit une série depuis un petit moment et il a fait mourir le personnage principal, et elle a décidé qu'il allait réécrire cette fin. Et donc, elle jette le manuscrit qu'il venait de terminer sous ses yeux, elle le brûle, qui était son premier livre qui sortait un petit peu justement de cette commande un peu commerciale dans laquelle il était enfermé. Elle le brûle sous ses yeux. Je peux vous dire que pour un écrivain, cette scène, elle est absolument atroce. Et ensuite, elle lui commande donc d'écrire. Et finalement, ce qui est fou, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que c'est ce qui le sauve. C'est de cette obligation de se remettre dans l'acte d'écrire, bien que ce soit une commande et
une torture,
une menace quand même terrible derrière, c'est dans cette fiction qu'il écrit qu'il va trouver la force de résister. Voilà.
Il écrit sur une machine à écrire à laquelle il manque des lettres en plus.
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et pour répondre à votre question, à la fois, ça m'a bouleversée parce que le texte est d'une puissance. Je rejoins ce qui a été dit sur cette puissance aussi sensorielle que King a. On est pris vraiment, on est pris aux tripes, quoi. Je n'ai jamais lu, je vais vous dire, une description aussi fine de la souffrance physique que dans Misery. Mmh. Je suis d'accord, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre littéraire. C'est pas seulement un texte d'horreur ou de suspense. Il y a un suspense terrible, évidemment, mais je peux vous dire, au début, les descriptions de la souffrance physique quand il attend qu'elle lui donne son médicament dont j'ai oublié le nom, c'est hallucinant de décrire ça comme ça.
Avec la marée qui monte et qui descend,
voilà,
en fonction
exactement.
De la douleur qui monte et qui descend.
Oui, 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 tout à fait. Et c'est vraiment, mais c'est remarquablement écrit, décrit. Donc, à la fois, on le lit avec les tripes et en même temps, intellectuellement, c'est totalement jouissif. Parce que c'est très brillant, Stephen King, en fait, son analyse de la société, son analyse des rapports humains, ce questionnement autour du mal, son analyse des relations intrafamiliales, tout ça est d'une pertinence irréprochable et avec un sens du récit. Qui a été évoqué par vos invités, qui d'ailleurs pour moi explique le fait qu'il soit si souvent adapté au cinéma, c'est qu'il a un sens du récit aussi. Enfin, en tant qu'écrivain, moi je peux vous dire qu'il y a des pages, parfois des débuts de romans. Je pense à Sackdoff particulièrement, un type part faire ses courses au supermarché et je ne sais plus comment, enfin je ne saurais pas vous retrouver des phrases exactes, mais en gros sa femme meurt et c'est décrit en une page, c'est d'une puissance, n'importe quel romancier rêve de faire ça.
Vous y piochez des astuces parfois de système narratif, de manière de raconter. Vous vous dites, comment Stephen King se sortirait de cette manière-là ou pas du tout ou c'est un maître ou c'est un ami, je veux dire.
Les deux, mais c'est pas aussi explicite que ça. C'est-à-dire que je me dis, tiens, voilà, comment c'est fait. Mais c'est sûr que le fait d'avoir été une lectrice assidue de Stephen King, même si je n'ai pas encore épuisé son œuvre, ça infuse. Et donc, je pense que dans ma manière aujourd'hui de raconter les choses, probablement, il y a une forme d'influence.
Mélanie Fazi, Delphine de Vigan en parlait. Il y a la question de la drogue aussi dans Misery, qui est assez importante finalement, parce que donc, on lui donne une drogue pour antidouleur, mais qui devient une vraie drogue, quoi. Un médicament antidouleur qui devient une vraie drogue et une addiction.
Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Il y a une chose, en fait, qu'il explique dans l'essai écriture, qui est que King lui-même a eu des problèmes d'addiction. Ça, il s'en cache pas, il en parle assez librement.
Alcool, notamment.
Voilà, alcool et drogue, et cocaïne, je crois. Et il explique dans l'écriture qu'il y a deux romans qui l'ont fait prendre conscience qu'il allait vraiment pas bien et qu'il fallait qu'il s'attaque à ça. Et l'un de ces deux romans, c'était Misery. Et il dit, en fait, textuellement, dans l'écriture, Annie Wilkes, pour moi, représentait la cocaïne.
Delphine de Vigan, vous l'avez déjà rencontré en vrai, Stephen King ?
Non, non, non. Il est venu à Paris, comme vous le savez sans doute, il y a quelques années.
En
2013, voilà. J'aurais eu la possibilité de le croiser à ce moment-là. J'ai beaucoup hésité. Et puis, en fait, je me suis dit non, je vais laisser le mythe intact. Ça aurait été forcément une rencontre très brève et un peu frustrante. Et voilà, j'ai préféré rester avec mon Stephen King, comme je pense qu'on a chacun son Stephen King, effectivement.
Merci Delphine de Vigan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle
merci
au passage le titre de votre dernier roman, Les Gratitudes chez Lattès. Merci beaucoup. Et merci à vous Mélanie Fazi et Guy Astic pour vos lumières sur le maître Stephen King. Je vous conseille à tous, moi aussi, de donner à un ado Stephen King le recueil Différentes Saisons par exemple, mais tous les autres ça marche aussi. En tout cas, il ne le lâchera pas et ça va sans dire. Vous pouvez le lire aussi parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Dans un instant, encore des livres, on retrouve les libraires de La Voix est libre. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Il est l'heure de traîner dans les rayons des librairies à l'heure d'été, donc sujet libre aujourd'hui avec nous Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre, et Thibaut Raden de la célèbre librairie L'Écriture à Vaucresson. Salut à tous les deux.
Salut, Salut Nicolas. Nicolas.
Sujet libre donc j'ai dit cet été. Pauline Carayon, on commence par vous.
Ok, eh bien moi je vais vous parler du livre de Le Clésio, Chansons bretonnes. Chanson bretonne suivie de L'Enfant et la guerre, en fait, ce sont deux contes. Et donc, dans le premier conte, Chanson bretonne, Le Clésio nous offre une ode à l'iode de son village breton, Sainte-Marine. Il raconte ses souvenirs d'enfance après 1944 et les étés passés à Sainte-Marine, la vie d'avant, le vent. la pluie, les ajoncs et tout, et tous les personnages qu'il croise et dont il se souvient précisément.
Mais ça a l'air triste, la manière dont vous le
dites. Ah non. Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est écrit avec plein de poésie. Et en fait, c'est-à-dire qu'il raconte aussi une société qui est en pleine mutation sociologique aussi, c'est ça. L'accélération de la mécanisation industrielle, la désertion des églises, mais il le fait sans amertume. Il se rappelle juste de ses souvenirs et de lui en tant qu'enfant, où la nature est extrêmement présente et que cette nature-là, ce rapport à la nature qu'on peut avoir tendance à oublier aujourd'hui, eh bien, pour lui, il lui permet de survivre, de rêver. Et c'est extrêmement poétique. Donc, et c'est pas du tout nostalgique ou mélancolique. Et, parce que c'était pas forcément mieux avant. Mais ce qu'il conserve, en fait, dans sa mémoire, c'est l'authenticité du peuple breton, d'un peuple qui a résisté aussi, de personnalité, on va dire, plutôt laconique, mais pleine de panache dans les actes. Et ça réveille l'ardeur, c'est une ode aussi à l'espoir. Je le conseille, c'est merveilleux.
Et vraiment. Vous l'avez apporté aujourd'hui, c'est un livre qui vous suit depuis longtemps?
Je suis tombée dessus par hasard, vraiment. Et il suffit, en fait, à vrai dire, dès les premières lignes, j'ai su que bouquin me plairait, c'est fluide, le style est toujours.
Parfois, comme ça, un livre, c'est un coup de foudre aussi.
Ouais,
Thibaut Roden, c'est à vous.
C'est à moi. Je vais vous parler de La pierre et le sable.
J'étais sûr que ce serait un truc de derrière les fagots. J'adore Thibaut Roden pour ça, quoi. La pierre et le sable, déjà.
C'est de Eiji Yoshikawa, tout un japonais, comme toujours. Ça raconte, en fait, l'histoire. Alors, c'est une biographie, on va dire, mais c'est très romancé quand même. C'est l'histoire de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, c'est le plus grand sabreur que le Japon ait jamais connu. Et c'est aussi un des personnages les plus fascinants que j'ai eu à lire. Eiji Yoshikawa, en écrivant ce livre qui fait 2 tomes, parce qu'après il y a La parfaite lumière, en tout ça fait 1600 pages, c'est 1600 pages que j'avais lu en 2 semaines alors que j'étais jeune, et c'est un livre qui me suit pour le coup.
C'est un livre d'ado un peu, peut lire ado, qui marque
En fait, j'ai commencé la lecture assez tard moi, et je me suis tout de suite dirigé vers la littérature japonaise, et je suis tombé dessus un jour parce que je trouvais que le titre était très sympa, La pierre et le sable, je voulais savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, je trouve un personnage qui, quand il est jeune, il fait la guerre, il ne sait pas trop pourquoi, il est hyper sanguin, colérique au possible, il n'écoute rien dans une société où tout est droit, tout est carré, déjà le cas au Japon avant, et qui, un jour, retourne dans son village natal, après avoir déserté, donc c'est un lâche, presque un traître, et il se fait avoir par un moine, il se fait attraper par un moine, et le moine, il l'attache à un arbre pendant des jours. Et lui, tant que tu ne seras pas calmé, tant que tu n'auras pas compris la leçon, bah, tu restes là. Et alors, il prend très très cher Musashi, puis il se calme. Et le moine ensuite l'enferme pendant 1 an, je crois, dans une pièce. Et il lui dit, tu as toute l'année pour lire tous les livres qui sont ici. Et je trouve que déjà, l'idée est fascinante. Et il sort de là avec une seule idée en tête, c'est se perfectionner lui, son art et son esprit.
C'est vrai que c'est parfait pour les ados, finalement.
C'est un peu le cas, ouais. Et en gros, on suit toute sa vie, tous ses combats, parce qu'il a eu des combats extraordinaires, des combats qui ont façonné l'histoire du Japon aujourd'hui.
Mais c'est un personnage réel.
Oui, il a existé, bien sûr.
Mais il ne s'est pas fait enfermer pendant...
Mais si, il s'est fait enfermer. Après, il y a plein de choses qui sont romancées.
Génial.
Mais par exemple, sa légende s'est créée parce que la plupart de ses ennemis, il les a battus avec un sabre de bois, alors que les autres étaient un sabre tout court. Enfin,
et la pierre ?
La pierre, c'est plus lui qui se... Il se durcit, en fait. En se perfectionnant lui et son esprit, il se retire du monde presque. Et c'est fabuleux comme lecture, c'est hyper bien écrit, hyper bien traduit, c'est génial.
La pierre et le sabre, vous m'avez encore convaincu. C'est chez J'ai lu et Pauline Carayon, Le Clésio, chanson bretonne. C'est chez Gallimard. Merci beaucoup et on retrouve ces livres, notamment chez Thibaut Roden, à la librairie L'Écriture de Vaucresson. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
Dans
Nicolas.
Un instant, merci, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande. On va lui proposer La pierre et le sable.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est libre. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, on retrouve un monstre de la littérature adulte qui débarque en jeunesse. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de frontières. Mais allez-y.
C'est vrai, c'est le maître de l'épouvante, auteur de Ça, Cimetière ou Salem. Vous avez bien évidemment reconnu Stephen King. Deux romans qui viennent de sortir cette semaine en littérature, donc jeunesse. Leur titre, Brume pour le premier et Le Corps pour le second. Dans Brume, Stephen King nous embarque dans l'Amérique profonde, le petit village de Bridgeton sur la côte est. Un épais brouillard recouvre toute la ville. Billy et son père se réfugient dans un supermarché avec d'autres habitants. Un huis clos angoissant avec quelques bestioles bien terrifiantes. On est aux frontières du réel, de l'imagination, de la folie. Ça, c'est donc le premier roman. Et dans le deuxième, Le Corps, un gamin de 13 ans, Gordon Lachance, et ses trois meilleurs amis profitent de leur dernier jour d'été. Ils apprennent que le cadavre d'un garçon disparu se trouverait près d'une voie ferrée. Ils mentent à leurs parents respectifs et partent à sa recherche. On n'est pas dans un roman d'horreur cette fois, c'est assez rare chez King pour le souligner, mais un récit extrêmement intéressant car très autobiographique.
Et c'est pas trop dur pour les ados ?
Non, alors je vais pas vous dire qu'on peut lire ça dès 12 ans sans risque aucun de faire de cauchemar, mais ces deux textes s'y prêtent vraiment bien. Ce sont en fait deux novellas, des longues nouvelles qui ont été publiées dans les années 80 dans des recueils. Édité en adulte à l'époque, mais pas pour la jeunesse, c'est bien la première fois que King est accessible. Et ces deux textes s'y prêtaient donc très bien, comme l'a confié Maëlys de la Jugy, responsable de littérature étrangère chez Albin Michel Jeunesse.
Pas mal de libraires jeunesse avaient une idée de King en se disant « c'est trop pervers, c'est trop difficile, on peut pas mettre ça entre les mains d'adolescents ». Et nous, on n'avait pas du tout l'envie d'abréger les textes ou de proposer une version édulcorée. Je me suis tournée vers les recueils de nouvelles. Et je me suis dit bah, « finalement, l'art de la nouvelle, c'est quelque chose dans lequel King excelle ». Donc ça m'a paraissé intéressant de le proposer à un public adolescent.
Et Albin Michel a sélectionné en plus 15 nouvelles en tout. Les deux premières donc sortent cette semaine. Les prochaines sortiront en mars prochain.
Et alors à partir de quel âge, Victor ?
Alors à partir de 14 ans, vraiment pas avant, ce sont des romans courts, un peu moins de 300 pages. On retrouve les thèmes chers à l'auteur, le huis clos, l'angoisse, la menace inconnue, la fin de l'adolescence également. Si vos ados ont bien aimé les romans Chair de poule ou d'autres classiques fantastiques de la littérature jeunesse, essayez de leur acheter ces deux textes. Le problème, Nicolas, c'est qu'il risque de devenir forcément accro de Stephen King.
Ah, je vous confirme que c'est une addiction.
Ouais. Hein. Une vraie, véritable addiction.
Et donc, on rappelle les titres, Brume et Le Corps de Stephen King. Le Corps, je l'ai lu, c'est incroyable, c'est génial. Ouais. C'est édité donc chez Albin Michel Jeunesse. Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Europe 1.
Et merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons de François Sagan, Autre ambiance. À la semaine prochaine.